Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le psaume 139, vous le connaissez probablement, mais il nous dit des choses qui sont pleinement susceptibles de fortifier notre foi. D'abord, un regard sur cette année qui se termine, et puis l'année qui vient également, quels que soient les événements qui sont devant nous, mais peu importe. En tous les cas, nous voulons nous réconforter à travers les paroles de ce psaume. C'est un psaume de David, le psaume 139, et j'aimerais y apporter quelques réflexions. Je dis donc que le psaume 139, psaume de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit ? Et où fuirai-je, loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je l'ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Il est beau ce psaume, n'est-ce pas? Alors on va en parler. D'abord, on va en faire l'étude succincte. Et lorsque nous considérons l'ordonnance de ce psaume, sa composition, il s'agit de 4 fois 6 versets. 4 fois 6 versets. Et la composition donc s'articule à travers les 4 premiers versets, où il est question que Dieu voit tout. Ensuite, du verset 7 au verset 12, Dieu est présent partout. Vient une troisième série, du verset 13 à 18, Dieu est le créateur, créateur de l'homme, et cet homme qu'il a créé, il le connaît, il nous connaît parfaitement. Et une dernière série, un dernier paragraphe, du verset 19 à 24, c'est que devant autant de merveilles et de perfections, pourquoi le mal existe-t-il ? Voilà le psaume, en quelque sorte. Alors nous allons l'examiner par le détail et en tirer certainement pour notre foi de l'édification. Nous allons commencer par ces premiers versets, c'est-à-dire de 1 à 6, où il est question que Dieu voit et sait tout. Alors je ne sais pas si vous en êtes pleinement convaincu, mais la Bible nous dit que Dieu voit et sait toute chose. Les paroles que nous avons devant les yeux nous disent « Tu me sondes, tu me connais, tu sais quand, tu pénètres, tu m'entoures et tu mets ta main sur moi. » Dieu voit et il sait tout. Il ne se contente pas, finalement, de voir, mais il approfondit finalement le sens des choses. Rien ne lui échappe de ce que je pense. Dieu connaît mes pensées. Il connaît vos pensées, il connaît les pensées de tous les hommes. Il connaît également ce que je fais. Derrière, finalement, mes actions, il y a toujours la pensée. La pensée est à l'origine de mes actions et de mes activités. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes seuls au monde. Nous pouvons l'être aux yeux des hommes, mais certainement pas en ce qui concerne Dieu. Je voudrais affirmer qu'autour de ces 6 premiers versets, Dieu n'a pas besoin d'une enquête approfondie pour savoir. Si les hommes cherchent à élucider des énigmes, eh bien pour Dieu, les choses sont instantanées. Pour lui, tout est au plein jour, quoi qu'il en soit. Alors, la question qui est posée dans ce psaume, mais comment lui échapper, puisque nous sommes enveloppés de toutes les manières, de toutes les façons, par sa divine présence. Et alors, toutes ces perfections, naturellement, sont au-dessus de notre compréhension. C'est pourquoi il y a une grande partie de l'humanité qui ne peut appréhender même la notion de Dieu. Mais pour le chrétien, pour l'homme qui a été éclairé dans son cœur, dont l'esprit a été illuminé, eh bien, il en va tout autrement. Parce qu'il est question de perfection divine. Ces perfections qui lui permettent, eh bien, de voir et de tout savoir. Et c'est vrai que si nous voulons rentrer dans cette compréhension, cela nous dépasse. Et on n'explique pas Dieu. On n'a pas à argumenter avec des preuves, ou sinon peut-être notre propre témoignage. Mais il sera peut-être des preuves pour certains et pour d'autres, eh bien, ils ne le retiendront pas, ce témoignage. Mais toujours est-il que toutes ces perfections sont au-dessus de notre compréhension. Lorsque nous lisons certains livres, et pratiquement dans toute la Bible, il est question justement de cette perfection divine qui dépasse notre intelligence. Nous voyons que la suite démontre également que Dieu est partout. Non seulement il sait tout, il voit tout, mais il est partout. Le psalmiste, qui n'est entre autres que David, se place dans la position d'un homme qui chercherait à fuir Dieu. Dans les versets qui suivent, eh bien, c'est un petit peu la manière dont nous pouvons aborder la compréhension et l'interprétation de ce psaume. Quelqu'un qui voudrait échapper au regard de Dieu, au savoir de Dieu, et cet homme va tenter l'impossible. David avait dû certainement faire cette expérience dans une circonstance particulière. Peut-être pas dans les meilleures phases de sa vie, puisque quand il s'exprime de cette manière, c'est qu'il a probablement quelque chose à cacher. Ou lui qui est l'ami de Dieu, lui qui est dans l'intimité de Dieu, eh bien à ce moment-là, eh bien tente finalement à se soustraire au regard de Dieu dans sa vie. Et il va tenter l'impossible. Alors on peut tout simplement relire ces versets, le verset 7 à 12, et il dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, alors, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Loin de ton esprit. C'est une révélation, ça. Une grande révélation. Parce que contrairement à la matière limitée, donc enfermée et prisonnière, c'est notre état d'homme. Nous ne pouvons pas nous soustraire à cette dimension dans laquelle nous avons été créés. Alors je dis bien contrairement à la matière qui est la nôtre, la dimension de l'esprit rend libre et elle est sans contrainte. Si l'homme ne veut voir que finalement, eh bien, la corporalité, il n'ira pas plus loin. Il verra la corporalité, il verra la créature, enfin il verra l'homme dans ce qu'il peut être sa constitution. Mais il faut aller au-delà. C'est que l'homme n'est pas seulement un corps, mais il est une âme. Une âme vivante. Et il est un esprit. Et c'est par cette dimension de l'esprit que nous rentrons en communion et que notre compréhension va s'élargir et s'ouvrir. Parce que le monde de l'esprit, je le répète, est libre et sans contrainte. Et voilà que David dira, mais si je monte vers les cieux, autant que je puisse, eh bien, tenter de le faire, alors aux cieux, Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que je peux faire? Si je descends dans le séjour des morts, eh bien, voilà que tu t'y retrouves. Tu es partout, Seigneur. Et vous savez que pour nous, les humains, eh bien, la mort semble le lieu de l'oubli par excellence. Mais je voudrais vous dire que c'est faux. À partir de ce matin, si vous n'aviez peut-être jamais observé ce passage du psaume 139, c'est que Dieu est partout. Ce n'est certainement pas sa demeure. Mais en tous les cas, Dieu est partout. Et si nous considérons les choses à notre dimension d'homme, en tous les cas, David dira, bien, que je descende dans le séjour des morts, et bien te voilà encore. Les extrémités, le bout de toute chose, les extrémités du monde, de la terre, c'est le verset 10 qui nous le rappelle, puisque c'est aussi une tentation. Il dit, mais là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Les opposés, les ténèbres et la lumière, qu'est-ce que tout cela pour Dieu? Pour Dieu, les ténèbres et la lumière sont semblables, parce que pour lui, tout est au grand jour. Ce sont des affirmations, c'est peut-être des vérités fondamentales que nous sommes en train de rappeler. Mais c'est ce qui fait vivre notre foi. C'est ce qui nous montre que Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour une autre dimension, pour que nous puissions eh bien, réaliser véritablement quelque chose qui ne nous est pas accessible par notre intelligence, par finalement notre réflexion. Et que ce soit d'une manière le ciel ou la terre, que ce soit la vie ou la mort, que ce soit les ténèbres ou la lumière, eh bien pour lui, tout est à la lumière. Il n'y a pas d'ombre. Aucune chose, ni l'homme, ne peut être caché, oublié. Vous connaissez ce texte du livre des Hébreux, où il est dit que nulle créature n'est cachée devant la face de Dieu. Et ça, c'est un rappel. Nous avons besoin de nous en souvenir pour que nous puissions être conduits et dirigés par le Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos inadvertances, malgré nos erreurs. En tous les cas, je ne veux pas voir un Dieu qui me poursuit, mais je veux voir un Dieu qui me fait du bien et qui me délivre du mal, qui me délivre du péché. Et ça, c'est rassurant de savoir que ses yeux ne sont pas là comme les yeux d'un inquisiteur, mais d'un Dieu sauveur. Et il demeure sauveur. Et il demeure celui qui, comme David l'exprime, même si un moment ou un autre de sa vie l'a tenté de fuir, néanmoins, vous allez voir par la suite, quoi qu'il en soit, les yeux de Dieu, le savoir de Dieu, la présence de Dieu en tout, partout, n'est pas contre l'homme. D'ailleurs, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, il faut l'intégrer, cette notion. Et vous savez que ça peut changer complètement et radicalement notre vie. Au lieu de nous renvoyer à nous-mêmes, à nos culpabilités exploité bien souvent par l'ennemi, peut-être par des fêtes ou des fautes que nous avons commises, mais une chose qui est certaine, c'est que là, nous ouvre, et ça c'est l'Ancien Testament, vous vous rendez compte? Déjà dans l'Ancien Testament, eh bien un homme comme David, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, c'était avant la Pentecôte, pouvait s'exprimer de cette manière. En Dieu, la clarté est parfaite, elle est totale, elle est absolue, nous dit le psaume 139. Alors, Dieu sait tout. Il voit tout. Il est présent partout. Il connaît l'homme dans ses secrets, dans son intimité, dans son passé, dans son présent. Il connaît aussi notre avenir. Nous connaissons notre passé. Nous savons de quoi il a été fait. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en raison certainement de tout ce que nous avons, eh bien là, appris, connu, vécu, souffert peut-être, dans notre passé. Notre présent est là aujourd'hui, nous le vivons, nous le partageons ce matin, mais notre avenir, nous ne le connaissons pas. Mais une chose qui est certaine et qui neutralise nos inquiétudes et nos tracas et nos soucis, c'est de savoir que Dieu le connaît. Est-ce que vous croyez, et je pose la question, est-ce que vous croyez que Dieu a un mauvais avenir pour chacun d'entre nous? Dieu a un bon avenir. Par-delà les situations, par-delà les événements, par-delà l'année qui vient, avec tout ce que nous pressentons de difficultés et de problèmes de toute nature. Mais Dieu connaît notre avenir. Il connaît ton avenir. Il connaît aussi mon avenir. Le psaume 90 a été écrit par Moïse, le seul psaume qu'il a écrit. Un homme probablement au fait de son existence, un homme très âgé, qui avait pu probablement, eh bien, à travers les expériences extraordinaires, formidables, de puissance, et après avoir conduit un peuple pendant des années, le peuple indocile d'Israël, pouvant en tirer les conclusions, et il pouvait demander à Dieu de lui apprendre à bien compter ses jours. Mais il savait aussi qu'il y avait de l'avenir. Et il y a un avenir pour ceux qui croient dans le Seigneur. Un avenir. Un avenir ici-bas et un avenir éternel. Et voilà que David poursuit à travers le verset 13 et il dira ceci: « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et les reins, paraît-il, est le siège de la force. Les reins et le cœur désignent souvent la vie intime, la vie profonde de l'homme, ce que l'on appelle communément l'âme. L'âme, c'est invisible, mais c'est pourtant la réalité de ce que nous sommes. Il y a le corps, il y a l'âme, siège de l'intelligence, de la réflexion, siège également de ses sentiments si on y incorpore le cœur, de son affect. Siège également de sa volonté, mise en œuvre ou mise en action, et puis bien d'autres choses. Alors, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé. Et le mot tissé est quelque chose qui représente un travail soigneux, un travail méticuleux. Et c'est vrai que quand on considère, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, parce que si vous avez des douleurs, vous me direz... Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas toujours, mais néanmoins l'harmonie fonctionnelle du corps, c'est quelque chose qui nous émerveille. Lorsque nous regardons, eh bien là, comment, de quoi nous sommes faits, la manière dont, eh bien, fonctionnent nos organes, et que nous arrivons à tenir debout quand même, hein, que nous arrivons à faire des choses extraordinaires, que nous arrivons à réfléchir, que nous arrivons à produire. La santé, c'est un bien précieux, on va s'échanger des vœux d'ici peu de temps, mais reconnaissons avant tout que c'est une grâce de Dieu. Et si on l'a, bénissons le Seigneur. Oui, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a cette harmonie du corps, cette harmonie fonctionnelle, comme nous avons dit, mais il y a aussi la beauté. Alors, la beauté, peut-être, elle a tendance à se replier à l'intérieur, plus nous vieillissons, mais... Quand on regarde un enfant, quand on regarde un petit garçon ou une petite fille, quand on regarde un jeune homme ou une jeune fille qui sont là dans la fleur, nous pourrions dire, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est certainement ce que David était en train de contempler. Il avait été jeune aussi. Un beau garçon, David, paraît-il, d'après ce qu'il nous est dit. Mais il semblerait que plus nous vieillissons, eh bien, cette beauté va disparaître peut-être de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. C'est le but, hein. Vous savez que Paul l'écrira avec des lettres de feu quand il dira, mais que, eh bien, finalement, si notre corps dépérit, en tous les cas, notre être intérieur, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors on comprend que, eh bien, quand nous lisons ces paroles, eh bien, l'expression, la louange, l'adoration de David. Et tout cela est comparé à un admirable tissu brodé, une tapisserie, et qui fait dire au verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon cœur, mon âme le reconnaît bien. » Nous avons certainement matière à louer le Seigneur le dimanche et tous les jours, pour la croix, pour la rédemption, pour le pardon, pour la vie présente, pour la vie future. Mais nous pouvons aussi bénir le Seigneur pour tout ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes sur la terre, tout ce qui environne notre vie, et de pouvoir lui dire « Mais merci Seigneur ». Et je crois que David n'était pas tombé dans l'orgueil en disant « Mais je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il n'y avait rien de présomptueux dans cela. Et aujourd'hui, nous en savons plus sur probablement le fonctionnement du corps, sur toutes sortes de choses qui étaient inconnues à ces hommes de l'ancien temps, ces hommes de l'Antiquité, avec les découvertes. Et nous pouvons nous extasier, nous exclamer, « Mais Seigneur, mon âme le reconnaît bien. » Quand nous vivons dans une société ou un monde où l'homme se détruit son corps, l'altère, le persécute, le marque, comme on le voit. Je dis que c'est triste. Alors si ce sont les autres qui le font, c'est une chose. Mais quand c'est nous-mêmes qui le détruisons, c'est encore autre chose. C'est peut-être une injure que nous faisons à Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin. Nous devons l'entretenir. Nous devons le nourrir. Et nous devons aussi en bénir le Seigneur. Alors, peut-être avons-nous besoin de nous apprendre à nous aimer, nous-mêmes. Ouais. De nous accepter tels que nous sommes. Parce que par-delà nos défauts, par-delà nos disgrâces physiques, par-delà ce qui ne nous plaît pas, eh bien, de peut-être voir aussi, considérer qu'à côté de ça, Dieu nous a donné aussi de sa beauté, de sa grâce, de sa vie. Alors il faut apprendre aussi à s'aimer soi-même pour pouvoir aussi aimer les autres. Vous connaissez la formule, naturellement. Alors, tu m'as tissé dans les profondeurs, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Il est question du sein maternel. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein ? La gestation, la préparation de la venue au monde d'un enfant. C'est un mystère. Enfin, ça l'est peut-être un peu moins maintenant. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, nous avons toutes sortes de choses qui nous sont, des informations qui nous sont données. Une petite cellule qui va devenir quelque chose de gigantesque. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore découvert le secret. Tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre, le sein maternel, où s'élabore silencieusement et mystérieusement la vie humaine, comme autrefois, à la création première, s'élabora dans le sein de la terre la vie organique, puisque tout cela est fait pour nous rappeler que nous sommes poussière, mais que de la poussière, Dieu est capable d'en faire sortir la vie. D'un rien, il est capable d'appeler les choses qui ne sont pas pour qu'elles soient. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Et ça nous parle. Devant toutes nos incapacités, devant nos impuissances, devant nos rébellions, devant toutes sortes de choses que Dieu est capable de faire. Dieu est capable, il est tout puissant pour créer. Alors, comment vais-je, Seigneur, encore être incrédule dans une situation qui est la mienne aujourd'hui, dans laquelle je bute, je m'interroge, je suis perplexe, je me détruis moi-même par toutes sortes de questions. Mais si je me tourne vers toi, alors je peux dire, mais tout est possible, Seigneur. Tout est possible. Et vos problèmes, nos difficultés, nos pleurs, nos chagrins, Dieu est capable de les changer. Il est capable de les transformer, parce que de la poussière, il était capable de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Il est capable de renouveler tout cela. Le verset 16 nous dit, « Quand je n'étais qu'un germe, ou une masse informe, ça dépend des traductions, pour nous dire encore une fois de plus que toute existence est devant les regards divins, dès son origine, et la connaissance qu'a Dieu sur chacun n'anéantit ni la liberté, ni notre liberté, ni notre responsabilité. » J'entends par là, comme nous l'avons dit, que Dieu voit et qu'il sait tout. Et vous avez remarqué qu'il y a quelques cas d'exception où Dieu annonce la naissance d'un homme, la naissance d'un prophète, avant qu'il ne vienne sur la terre, et quelquefois des centaines et des centaines d'années avant. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. Il y a eu des hommes comme cela. Jean-Baptiste, ben, Jésus naturellement. Je t'ai pris du sein maternel, et je t'ai appelé pour que. Est-ce que vous croyez que nous sommes le produit du hasard, que nous sommes arrivés comme cela? Nous avons vécu deux créations, une création terrestre et une création spirituelle. Et moi, je suis dans l'émerveillement de savoir que Dieu m'a donné une première vie et qu'il m'en a donné une seconde. Et je me dis, lorsque je considère, tous ceux qui sont autour de moi, lorsque je considère la solitude des stress que de ma famille, où je suis le seul converti, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Vous êtes certainement posé la question. Alors, comment Dieu a pu concevoir que dès mon origine, avant que je sois, eh bien, je serai un enfant de Dieu, que vous êtes aussi des enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est vrai. Et il a la connaissance sur chacun. Mais néanmoins, ça n'anéantit pas notre responsabilité et puis notre liberté. Parce que j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Et ça, ça fait partie, finalement, de ce droit que Dieu a donné à ses créatures humaines, à sa créature humaine, de choisir par lui-même. De choisir le bien, de choisir le mal, de choisir Dieu ou de choisir une autre voie. Alors c'est encore une grâce qu'il m'est donnée de bien choisir. C'est encore une grâce qu'il m'est donnée de le choisir lui. Et si peut-être j'ai pensé l'avoir aimé le premier, eh bien la Bible me le dément en disant que c'est lui qui m'a aimé le premier. Avant que je ne sache, avant que je ne connaisse, avant que je n'entende la parole de Dieu. Peut-être tout cela ce sont des révisions, que nous avons besoin de réviser tout cela. Parce que Dieu nous a conduits, il a la connaissance, et nous devons finalement être conscients de ces réalités, du mal, du péché, comme cela nous est dit au verset 19 à 24, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. » Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Alors il y a des phrases qui sont terribles. Hein. Je hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Alors, nous sommes dans le Nouveau Testament, on est bien d'accord. Hein. Expression de David, mais je crois que c'était le mal lui-même qui était en répugnance, en réjection pour David. Parce qu'il faut savoir que le grand livre de la vie est toujours ouvert. Alors, puisqu'il est toujours ouvert, parce que Dieu sait tout, parce que Dieu me connaît parfaitement, parce qu'il est partout, alors, je dirais, et je reprendrai les paroles de Jésus, puisque je sais que la démarche de mon Créateur, et qui plus est mon Rédempteur, est une démarche de bienveillance, une démarche d'amour, dont nous n'avons absolument pas à douter de la perfection de cet amour, eh bien me faire dire avec Jésus, mais alors à ce moment-là, merci de m'avoir conduit dans le passé. Merci de me préparer mon avenir. Mais aujourd'hui, Seigneur, alors j'entends Jésus me dire et Jésus vous dire aux uns et aux autres, nous le dire à tous ce matin, à chaque jour suffit sa peine, car chaque jour aura soin de lui-même. Alors mes frères et sœurs, nous nous inquiétons? Nous avons besoin d'être tranquillisés. Mais nous avons besoin d'être tranquillisés non pas par des éléments extérieurs que nous pourrions qualifier de sensibles, sur lesquels nous pourrions nous espérer, nous raccrocher. Mais nous avons besoin d'espérer en contemplant la toute science, la toute puissance de Dieu. Et de dire, mais je ne crains rien. Et regardez, considérez combien de fois Dieu est venu vers les hommes, soit en voyant un ange, ou soit en voyant Jésus, avec ces mots, ne crains rien, n'aie pas peur. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Les versets 17 et 18 que nous avons lus il y a un instant nous parlent, en contraste avec les perfections invisibles de Dieu, mais bien réelles, nous parlent de la réalité du mal, le mal et le péché. Et devant les plus profondes interrogations existentielles et les mystères insondables de la vie, le poète, donc David, s'incline et il adore. Oui, il adore. Et à l'instar d'un autre contemplateur des siècles après lui, qui s'appelle l'apôtre Paul, eh bien il écrira ceci, des paroles que nous connaissons bien, quand l'apôtre Paul écrira dans ce monument théologique qu'est l'Épître aux Romains, il dira ceci, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et ça, c'est un texte magnifique, admirable. L'apôtre Paul connaissait ce que David savait lui aussi. Et il avait probablement médité. Et il l'avait vu, il l'avait contemplé, il avait adoré Dieu à la vue de tout ce qui était autour de lui dans un monde où on fait tellement les choses vite. On n'a pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de réfléchir parce qu'on est emporté par une frénésie. Eh bien, il dira ces mots, mais en effet, ces perfections invisibles qui caractérisent Dieu, sa puissance éternelle qui soutient par lui-même finalement le monde et l'univers, sa divinité. Alors se voit comme à l'œil nu. Il suffit de pouvoir regarder avec un autre regard, comme nous a rappelé notre frère M. Comtesse, il y a 15 jours, 3 semaines. Et cela depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Je dis que Dieu parle à travers plusieurs livres. Il parle à travers le livre de sa majesté, de sa grandeur, le livre de la nature, de sa création. Dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, mais il parle aussi, et pour nous le rappeler, à travers le livre de la révélation qu'est la Bible, qu'est l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais si les hommes regardent, s'ils savent regarder, mais qu'ils ne voient pas, ils sont donc inexcusables. Ils peuvent voir de leurs yeux, mais leur cœur est fermé. Parce que appréhender Dieu ne se fait pas à la manière uniquement humaine, de la façon humaine, mais ça doit aussi intégrer finalement le regard de notre cœur. Ou selon cet autre cantique que nous avons si souvent chanté. Et c'est un cantique émouvant quand il est dit « Ô Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère » j'avais pris un petit peu les paroles là devant moi « Quand mon cœur considère tout l'univers créé en par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir, alors de tout mon cœur, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. » Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Eh oui, c'est un beau cantique, merveilleux cantique. Il a été écrit par un Suédois au XIXe siècle. Et probablement que ce chrétien, poète, avait certainement admiré les forêts de Scandinavie, les lacs et toutes ses beautés. Et il avait écrit ça. Il avait écrit cet hymne à la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, si tout l'univers s'accorde à exalter les merveilles d'un créateur ou du créateur infini, voici une autre réalité qui nous est donnée dans ce psaume 139. Autre réalité de la vie sur la terre des hommes, le mal et le péché. C'est les versets que nous avons lus dans les derniers moments, dans les derniers temps. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Heureusement que Jésus est venu, hein, depuis. Parce qu'aujourd'hui, la version nouvelle de la parole de Dieu, qui est l'Évangile, c'est un message de grâce, c'est un message de pardon pour tous les hommes. Un message où Dieu veut parler au cœur et les toucher profondément. Pour nous dire tout simplement qu'à travers ces quelques versets qui font irruption dans toute cette contemplation merveilleuse de ce qu'est Dieu en tant que créateur et de toutes ses beautés, de toute sa puissance, alors pour nous dire que quand les uns adorent et contemplent, on découvre avec stupeur ce qui entache et détruit l'œuvre glorieuse de Dieu, c'est la présence du mal et de ses agents. Et ça, Paul donnera un mot, c'est le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité. On se heurte, c'est vrai, devant la grandeur, la toute-puissance, la magnificence, et y aurait-il des mots pour exprimer qui est Dieu, mais on se heurte aussi dans un autre sens. Et quand on regarde vers les abîmes, ou les abysses, on s'aperçoit que le monde à côté de ça, c'est terrible. La présence du mal et de ses agents, nous dit le verset 20, ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. En quelque sorte, David dit qu'ils font injure à Dieu, dont les deux leviers sont le crime et le mensonge. C'est ce que nous dit le verset, le crime et le mensonge. Et la méchanceté se caractérise par l'égoïsme du méchant qui engendre l'injustice et l'iniquité en se servant, figurez-vous, la parole est là pour nous le préciser par la plume de David, en se servant audacieusement de ton nom. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande iniquité quand on commet le mal au nom de Dieu. C'est terrible. Dans un aveuglement innommable. Et ça, c'est terrible. De se servir de Dieu, de se servir de la religion, de se servir de la foi, finalement, au nom de Dieu. Les athées n'en font pas autant. La Bible les appelle à ce moment-là des impies. Ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des hommes sans foi ni loi, ce sont des impies. Ils connaissent et ils se servent de cela, finalement, pour étayer le mal qu'ils font. La criminalité et la langue mensongère. Leurs serments qu'ils prêtent et les cultes qu'ils célèbrent. Mais Jésus le dira dans l'évangile de Jean, quand ils vous mettront à mort, ils rendront rendre un culte à Dieu. Quelle folie! Et quand on voit toute l'histoire de notre humanité ensanglantée par les crimes, par l'exploitation de l'homme par l'homme, quand on voit ces champs de bataille où tout est suivi derrière avec omniprésent la religion, on se dit, mais Seigneur, c'est terrible une chose pareille. Ils se servent de leurs serments, ils se servent de cultes, ils les célèbrent pour se justifier et faire croire que. Alors le juste en éprouve du dégoût. Que de crimes, que de Caïn sur la terre, au nom de Dieu, de culte rendu à Dieu. Ou la méchanceté, ou le mensonge, ou la jalousie, ou l'envie, ou l'appropriation du bien de l'autre. Quelle indignation! Et on comprend que David a voulu intégrer dans ce psaume merveilleux qu'est le 139, cette notion du mal et de l'iniquité. Il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a la vie et il y a la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Alors, ça se termine par une prière, une belle prière. Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce sont des paroles qui expriment une sainte horreur du mal et de ceux qui s'y adonnent. Et ce n'est pas une réaction chez David dans l'esprit pharisaïque. Parce que vous savez qu'il existe cet esprit. de ce dégoût de son semblable, de cette réjection, de cette éjection que nous pouvons avoir vis-à-vis de ceux qui sont des hommes. Et tout cela dans cette attitude coupable, celui de jeter un voile hypocrite sur son propre péché. En condamnant l'autre, je me justifie, c'est faux. C'est ce que Jésus a dénoncé dans l'Évangile vis-à-vis des pharisiens, vis-à-vis de cette caste religieuse de son temps, en disant, mais vous dites aux hommes, vous leur demandez ceci, mais vous, vous ne levez pas le petit doigt, vous les chargez de fardeaux. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est curieux que nous trouvions cela dans ce psaume. Et pourtant, c'est la réalité, parce que ça doit être mis en lumière. Et moi, je crois qu'en écrivant ce psaume, David est profondément honnête. Il réclame simplement à Dieu, dans la crainte d'être lui-même sur une mauvaise voie, sans le savoir, de l'éprouver. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est sa prière. Seigneur, si quelque part, si quelque chose, si au fond de mon cœur, au tréfonds de mon âme, il y a quelque chose de répréhensible, mais Seigneur, la grâce que je te demande, c'est que tu m'aides, c'est que tu viennes me montrer, et que je ne sois pas comme ces hommes qui, à main levée, commettent le mal, courent après le crime, ont une bouche pleine de mensonges, et qui là vont se couvrir derrière le manteau d'une prétendue religion qui n'a rien à voir, finalement, avec ton nom, avec ce que tu es. Parce que David sait une chose, c'est que celui qui l'a fait, en d'autres termes Dieu, eh bien ce Dieu qui l'a fait le connaît si bien, et lui, David, craint de se connaître si mal et de se tromper sur lui-même. Et ça, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Seigneur, montre-moi tes voies. Éclaire mon cœur par ton Saint-Esprit. Parle-moi par ta parole. Parce que je peux me tromper moi-même. C'est l'apôtre Jacques qui écrira ces mots. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Et qui peut dire qu'il est sûr? Qui peut dire qu'il n'est pas comme les autres? Nous avons des passages à vide dans notre vie. Alors ça nous amène à beaucoup de modestie. Ça nous amène, comme David pouvait l'exprimer, il disait cette prière, « Mais vois, Seigneur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Les yeux du Seigneur pénétrant au fond des cœurs peut aussi délivrer pour qui le veut de toute chute, de tout écart, de tout péché, et le conduire sur la voie du bien qui mène à l'éternité, et de pouvoir dire, comme Pierre un jour, prenant conscience de ce qu'il était, et c'était un tempérament, notre Pierre que nous connaissons, et il dira, Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle, et que nous avons cru, et que nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Nous avons cru, et nous avons connu. Dieu nous connaît, et il nous demande de croire en lui, pour le connaître encore davantage, parce que nous avons cru. La seule chose qui peut nous sauver, mes frères et sœurs, c'est parce que nous croyons. Ce n'est pas notre religion, ce n'est pas de venir le dimanche matin, de venir le mercredi soir, de venir de faire ceci, de faire cela, etc. C'est parce que nous croyons dans ce Dieu de grâce et de miséricorde. Parce que nous avons cru et nous avons connu. En conséquence de quoi, et je vais bientôt finir, empruntant ce que quelqu'un a dit un jour, et je cite parce que j'aime bien cette parole, nous ne pouvons vivre qu'une seule vie. Cependant, si nous faisons les bons choix, une seule vie nous suffira. Ouais, je le relis parce que c'est important. Nous ne pouvons vivre qu'une seule vie. Cependant, si nous faisons les bons choix, une seule vie nous suffira, que nous n'aurons jamais regretté. Parce que c'est le Seigneur qui nous enseignera. C'est lui qui nous conduira. C'est lui qui aura les regards sur nous. Et c'est lui qui finalement nous mènera dans les bons choix de notre vie. Ne nous précipitons jamais de prendre des décisions. Le Seigneur sait tout, le Seigneur voit tout, et il est partout. Le verset 24, je le relis. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pourquoi, Seigneur, je peux te demander cela? Parce qu'en résumé, eh bien, Seigneur mon Dieu, parce que tu es souverain. Tu es souverain. Ce qui nous rappelle ce que Jésus disait dans le sermon sur la montagne, mais votre Père céleste sait. Eh oui, c'est formidable de savoir qu'au ciel, il y a quelqu'un qui sait ce que je ne sais pas. Et de savoir que lui sait quand moi je ne sais pas, mais ça me suffit. Ce psaume, pour finir, nous révèle quatre prérogatives exclusives à la personne de Dieu. Dieu, c'est de la théologie, mais vous allez comprendre, c'est facile. Il est omniscient, il voit et il connaît tout. Dieu est omniprésent, il est partout, celui qui emplit pleinement l'univers visible et invisible. De le savoir me rassure. Il est omnipotent, qui a pour sens qu'il peut tout en un mot, il est souverain en tout, il est souverain sur tout et il est souverain partout. Alors, souvent nous affirmons pouvoir gérer notre vie, l'organiser, nous la gaspillons en voulant faire ce que nous voulons. Souvent nous voulons l'accélérer notre vie, mais aussi la figer, avec ce sentiment, avec les sentiments vaniteux, qu'elle est entre nos mains, elle est entre nos mains à nous seuls. Je suis maître de mon souffle, je suis maître de ma vie. Alors encore là, c'est une erreur de notre part. Parce que nous avons nos yeux fixés ou rivés sur les cadrans de nos horloges et autres repères du temps, en fait, nous maîtrisons si peu de choses. Mais permettez-moi de le dire et de l'ajouter, c'est que Dieu n'est jamais très loin de chacun pour nous sauver de nous-mêmes et surtout nous sauver de nos illusions à nous croire maîtres et décideurs de notre destin. Vous connaissez dans le livre des Actes des Apôtres, quand les marins et les pilotes prennent la mer du temps de l'apôtre Paul, se croyant maîtres de leur sort. Eh bien, croyez bien que quelquefois nos déceptions et nos déboires dans la vie, c'est que nous croyons être maîtres de quelque chose et que nous sommes maîtres de rien du tout. Et nous devrions apprendre peut-être d'autres leçons. Trois messages simples concluent notre réflexion. Le premier message, c'est nous libérer de nos peurs. Puisqu'il est partout. Puisqu'il sait tout. Nous libérer de nos peurs, Jésus dira, ne craignez point, c'est moi. Le deuxième message, c'est nous débarrasser de ce besoin malsain de vouloir tout comprendre ou de vouloir toujours comprendre l'incompréhensible et expliquer l'inexplicable. Vous ne croyez pas ? Seigneur, quand je comprendrai, je croirai. Eh bien, Dieu me dit, tu vas commencer à croire et après tu comprendras. C'est ce que l'expérience de Pierre qu'il a faite quand Jésus a voulu lui laver les pieds. Quand le Seigneur a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard, et il y a des choses que nous ne comprendrons peut-être pas dans cette vie, mais que nous y comprendrons de l'autre côté. Et on comprendra pourquoi le Seigneur nous a toujours montré la tapisserie à l'envers, parce que lorsque nous serons de l'autre côté, nous verrons la tapisserie dans le bon sens. Et quand vous regardez une tapisserie à l'envers, vous remarquez qu'il y a des fils qui tirent de tous les côtés. Et il n'y a rien de très beau. Mais quand vous la regardez dans le bon sens, et le bon sens, ça sera de l'autre côté. Et troisième message, et ça je crois qu'il faut le rappeler, c'est que nous devons rester humbles et dépendants de son amour infini. Oui, parce que si nous avons besoin de nous le rappeler, écoutez ce que Paul écrivait dans Romains, il est dit ceci, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Notre Seigneur, qu'est-ce que nous avons ? Mais nous avons tout, mes frères et sœurs. Nous avons tout, absolument tout. Et je termine par une petite histoire, puisque c'est la fin de l'année. Petite histoire qui illustre la présence invisible de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. D'accord ? Il est là au milieu de nous. Moi, je le crois, de tout mon cœur. Je le crois. Présence invisible, mais réelle. C'est l'histoire d'un petit garçon dont la chambre se trouve dans une vaste maison et cette chambre est éloignée de toutes les autres pièces de vie. Il est dans une aile de cette grande maison pour rappeler que c'était au temps où l'électricité n'était pas encore connue. Alors on allumait la lampe, tout simplement on utilisait la lampe à huile. Or, cette chambre du bout du monde, on pourrait l'appeler comme ça, était lugubre. Elle était environnée de bruits insolites et mystérieux. Et l'imagination de ce petit enfant, de ce petit garçon, eh bien, s'affolait. Surtout lorsque, les soirs de tempête, finalement le vent, et il y avait toutes sortes de bruits. Alors imaginez-vous, on a tous connu la peur des bruits. Toutes sortes de choses dans le noir. Alors voilà, les choses étaient un peu présentées de cette manière. Mais voilà que son père, chaque soir, l'accompagnait jusque dans sa chambre, puis éteignait la lampe, et l'enfant restait seul dans son lit, naturellement, dans cet endroit, et les pas de son papa s'éloignaient dans l'obscurité qui devenait un lieu d'inquiétude, et une obscurité inquiétante. Et là, à ce moment-là, la peur s'installait au fond du cœur de cet enfant, et les larmes venaient également. Et un jour, son père lui a demandé, lui a posé cette question, elle est toute simple. « Que préfères-tu ? Que je te laisse seul avec la lampe allumée ou bien que je reste à tes côtés, dans le noir, jusqu'à ce que tu t'endormes ?» Je ne sais pas quelle réponse vous auriez donnée. Je ne sais pas quelle réponse. Alors, sans hésiter, l'enfant a répondu à son père, « Papa, même dans la nuit, reste avec moi, même si je ne te vois pas. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. » Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que la nuit, quelquefois la vie, c'est comme une chambre noire. Quelquefois la vie, c'est une chambre lugubre, éloignée de toutes sortes de choses, où nous aimerions tellement avoir, peut-être, la présence de quelqu'un, de quelque chose, je ne sais pas. Ouais, c'est ça la vie. Eh oui, parce que l'homme a été coupé de sa racine. Il a été coupé de cette relation, de cette communion. Mais même nous, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir ce ressenti. Alors, moi, j'aime bien ces paroles de cet enfant, mais papa, même dans la nuit, eh bien, reste avec moi. Même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Tu es là, près de moi. Et la seule chose qui fera la différence pour chacun d'entre nous, eh bien, moi, je vais vous le dire, c'est tout simplement notre foi. Seigneur, si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et je terminerai simplement par ce verset. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même si les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, etc. Mais je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, mes frères et mes sœurs. Dans la nuit, dans l'obscurité, dans la maladie, dans l'infirmité, dans le chômage, dans toutes sortes de choses, je voudrais vous dire que le message principal de ce psaume 139, c'est que Dieu nous dit qu'il est là. Dieu est présent. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez-le de tout votre cœur et que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce qu'en effet, Père éternel, je sais des choses, mais je ne sais pas tout. Et ce que je sais n'est rien à côté de ce que tu voudrais me faire connaître, tu voudrais me faire savoir. Et puis il y a des choses, Seigneur, que je ne saurais jamais ici-bas et que je les saurais de l'autre côté. Mais néanmoins, Seigneur, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, nous sommes appelés à marcher par la foi, sur ta parole, sur les déclarations de ta parole, sur tes promesses. Et tes promesses, et la promesse la plus merveilleuse, c'est que tu es là, Seigneur, parfois dans nos nuits. Tu es là dans nos obscurités, tu es là dans nos perplexités. Tu es là dans nos incompréhensions. Tu es là, Seigneur, lorsque nous sommes, eh bien, profondément malheureux parce que nous sommes étreints par la maladie dans nos corps, par l'infirmité, Seigneur, de nos âmes, soit l'angoisse ou la dépression, ou peut-être, Seigneur, toutes sortes de voiles opaques qui nous amènent à ne plus savoir pourquoi, à ne plus comprendre rien à rien. Mais, Seigneur, dans le nom de Jésus, à l'instar de cet enfant, eh bien, même si nous sommes dans la nuit, même si nous ne voulons pas nous laisser éclairer par toutes ces lumières artificielles qui nous font que de l'illusion. En tous les cas, Seigneur, une chose que je sais, c'est que tu es près de moi, Jésus. Tu me connais. Tu me connais quand je me couche. Tu me connais quand je m'assois. Tu me connais, Seigneur, dans ce que je pense. Et Seigneur, une chose que je peux dire, c'est que tu m'aimes. Parce que, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bénis mes frères et mes sœurs, ceux qui ont le cœur lourd. Ceux qui sont, Seigneur, peut-être devant un avenir où, Seigneur, eh bien, il n'y a pas de perspective, mais c'est toi. c'est toi qui vas leur donner, c'est toi qui vas les rassurer, et c'est toi qui vas les accompagner. Merci Jésus, merci pour ta bonté et ta fidélité. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.